Chapitre 4. Avertissement contre la chair religieuse et instruction à la piété. Après nous avoir instruits quant à l'ordre de la maison de Dieu et au secret de tout bon comportement de la part de ceux qui forment la maison, l'apôtre, dans le reste de l'épître, nous avertit contre certaines activités charnelles qui sont destructrices d'un bon comportement, et il nous instruit quant à la vraie piété qui seul gardera les fidèles de ces différents maux. Au chapitre 4, l'apôtre avertit plus spécialement contre l'apostasie et contre la chair religieuse qui se manifeste dans le faux principe de l'ascétisme. Au chapitre 5, nous sommes avertis contre la chair mondaine qui se montre dans le libertinage et l'assouvissement. Au chapitre 6, nous sommes avertis contre la cupidité de la chair et son amour de l'argent. La sauvegarde contre ces maux se trouve dans la piété. La vérité de la piété a une place prééminente dans cette première épître à Timothée. Le mot est utilisé 16 fois dans le Nouveau Testament, dont 9 fois dans cette épître. Chapitre 2, verset 2, chapitre 3, verset 16, chapitre 4, verset 7 et 8, chapitre 5, verset 4, chapitre 6, verset 3, 5, 6 et 11. La piété est la confiance dans le Dieu vivant et connu qui conduit le croyant à marcher dans une sainte crainte de Dieu au milieu de toutes les circonstances de la vie. Elle reconnaît et honore Dieu et est donc exactement le contraire de la bigoterie qui cherche à s'élever. Au chapitre 4, l'apôtre avertit d'abord contre l'apostasie de certains qui se détournent du christianisme pour une religion de la chair, versets 1 à 5. Il place ensuite devant nous la vie de piété comme ce qui gardera l'âme des maux de la chair, versets 6 à 10. Enfin, l'apôtre donne des exhortations personnelles à Timothée qui contiennent des instructions et des directions pour tous les serviteurs du Seigneur, versets 11 à 16. Versets 1 à 5, avertissement contre la chair religieuse ou l'ascétisme. Citation de l'Écriture. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité, car toute créature de Dieu est bonne, et il n'y en a aucune qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. Fin de citation. L'apôtre a terminé la portion précédente de l'épître avec un beau déploiement de la foi en présentant la grande vérité du christianisme comme étant la manifestation de Dieu en Christ. Maintenant, l'Esprit avertit expressément que dans les derniers temps de la profession chrétienne, certains se détourneront ou apostasieront de la foi. Plus loin, l'apôtre nous avertit que certains, par leur pratique, renieront la foi. Chapitre 5, verset 8. Plusieurs, par cupidité, s'égareront de la foi. Chapitre 6, verset 10. Et plusieurs, par la fausse connaissance, s'écarteront de la foi. Chapitre 6, verset 21. Au verset 1 et 2, l'apôtre parle d'apostasier de la foi. De toute évidence, l'apôtre ne parle pas de la grande apostasie prédite dans la seconde épître aux Thessaloniciens, qui se réfère à l'apostasie de la chrétienté dans son ensemble après l'enlèvement de l'Église. Dans notre passage, l'apôtre dit « quelques-uns apostasieront », faisant évidemment référence à l'apostasie d'individus durant les derniers jours avant la venue du Seigneur. Tant que l'Assemblée de Dieu est encore sur la terre, il y aura des gens qui auront un temps professé le christianisme, mais qui abandonneront les grandes vérités cardinales de la foi chrétienne sur la personne de Christ. Derrière cette apostasie il y a l'influence directe d'esprits séducteurs apportant des doctrines de démons, faisant contraste avec la vérité. L'apostat n'est pas simplement quelqu'un qui néglige la vérité ou qui la rejette, c'est quelqu'un qui, après avoir fait profession de la foi, abandonne délibérément la vérité et adopte un autre credo religieux comme étant supérieur au christianisme. Les démons profèrent des mensonges tout en professant maintenir la vérité. Le diable, nous le savons, est menteur. Jean 8, verset 44. Il séduisit nos premiers parents en disant des mensonges par hypocrisie. Le fait que la vérité n'a pas de puissance sur les âmes de ceux qui apostasient et le fait qu'ils prêtent attention à des doctrines de démons prouvent clairement que leurs consciences sont tellement cautérisées qu'ils ne sont plus capables de faire la distinction entre le bien et le mal. L'apostasie consiste non seulement dans l'abandon de la vérité, mais aussi dans l'adoption de l'erreur, la doctrine de démons. En lieu et place de la vérité, l'apostat affecte une religion de la chair qui se prétend du plus haut niveau de sainteté. Il prétend avoir une pureté extraordinaire en interdisant de se marier et une grande abnégation en s'abstenant de viande. En réalité, s'étant détourné de la foi, il renie Dieu comme notre sauveur. Et en refusant le mariage et les viandes, il renie Dieu comme le Créateur. Cela revient à perdre toute vraie piété qui craint Dieu, et le résultat en est la porte ouverte à la licence et au libertinage. Ces esprits séducteurs, flattant l'orgueil de la chair, font miroiter aux hommes la promesse de la plus grande sainteté pour les conduire finalement à la plus grande corruption. La vraie piété s'empare de tout bienfait que Dieu met à notre portée. Le mariage et les viandes sont des grâces que rejettent ceux qui se détournent de la foi, alors qu'elles sont reçues avec reconnaissance par ceux qui croient et connaissent la vérité. Le monde et ses voies n'ont pas l'approbation de la parole de Dieu pour le croyant. Cependant, ces bontés de la nature, qui sont disponibles pour tout le monde, sont préservées pour notre bien-être en traversant le monde. Leur usage est sanctifié pour le croyant par la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu régit leur usage, et par la prière, le croyant les prend dans la dépendance de Dieu. Versets 6 à 10. La piété ou la confiance dans le Dieu vivant. Citation de l'Écriture. En proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprises. Mais rejette les fables profanes et de vieilles femmes, et exerce-toi toi-même à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation. Car si nous travaillons et sommes dans l'opprobre, c'est parce que nous espérons dans le Dieu vivant qui est le conservateur de tous les hommes, spécialement des fidèles. Fin de citation. L'apôtre a avancé devant nous certains dangers contre lesquels l'Esprit nous met expressément en garde. Timothée devait rappeler ces choses aux frères, et ce faisant, il prouverait qu'il était un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine qu'il avait pleinement comprise. Les esprits séducteurs dont parle le Saint-Esprit cherchaient à exalter l'homme en lui donnant un sentiment d'importance religieuse et de sainteté. Au contraire, le vrai serviteur cherche à exalter Christ en communiquant la vérité. Pour être un bon serviteur de Jésus-Christ, il ne suffit pas de connaître la vérité et de la tenir. On a besoin d'en être nourri et de la suivre pleinement en pratique. Nos âmes doivent être nourries si nous voulons nourrir d'autres. Nous devons être nourris non pas simplement de paroles de docteur, aussi vraies soient-elles, mais des paroles de la foi qui nous transmettent la bonne doctrine du christianisme. Si on les suit, elles produiront des effets pratiques dans nos vies, nous préservant des maux des derniers temps. Après nous avoir exhortés à suivre la vérité, l'apôtre nous avertit de refuser tout ce qui est en dehors des paroles de la foi. L'imagination des hommes tendra toujours vers ce qui est profane et insensé, ce que l'apôtre appelle avec mépris les fables de vieilles femmes. Notre grand exercice devrait être de marcher dans la piété. Nous pouvons placer le service en premier, mais il y a toujours le grave danger d'être actif dans le service tout en négligeant la piété personnelle. Le bon serviteur s'exerce à la piété pour être utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, verset 21. Il peut nous arriver, comme aux Corinthiens, d'être très actif dans le service et de nous vanter de nos dons, et en même temps d'être très peu spirituel, parce qu'on a manqué à s'exercer à la piété. Pour souligner l'importance de l'exercice spirituel de la piété, l'apôtre le met en contraste avec l'exercice corporel. L'allusion est probablement au jeu public, comme en 1 Corinthiens 9, versets 24 et 25, où, parlant des courses publiques, il dit « Quiconque combat dans l'arène vit de régime en toutes choses ». Il nous avertit de nouveau dans notre passage qu'un tel exercice de régime n'a qu'un avantage passager. Au mieux, il permet d'obtenir une couronne corruptible, en contraste avec la couronne incorruptible que le chrétien a en vue. L'exercice corporel n'est utile qu'à peu de choses. Mais l'exercice spirituel de la piété est profitable en toutes choses, étant riche en bénédictions dans cette vie aussi bien que dans celle qui est à venir. L'apôtre insiste sur l'importance de cet exercice de la piété en déclarant que « cette parole est certaine et digne de toute acceptation ». Or, à cause de sa piété, l'apôtre peut dire « car si nous travaillons, nous sommes dans l'opprobre ». Verset 10. On peut être prêt à travailler pour être éminent devant les hommes, à travailler pour gagner des acclamations, à travailler pour s'exalter soi-même. Mais si la piété accompagne notre travail, il s'ensuivra inévitablement que l'opprobre accompagnera le travail. L'apôtre montre alors que la source de la piété est la confiance en Dieu. Nous espérons dans le Dieu vivant qui est le conservateur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. La piété est cette confiance individuelle en Dieu qui prend toutes les circonstances de la vie en rapport avec Dieu. L'homme non régénéré met Dieu en dehors de sa vie. Le croyant reconnaît Dieu dans tous les détails de la vie et c'est avec action de grâce qu'il reçoit et utilise tous les bienfaits que Dieu met à sa portée sans en abuser. Ainsi, la piété est l'antidote à toutes les influences mauvaises des derniers jours, qu'elles soient sous la forme d'ascétisme, d'incitation au célibat et à l'abstention des viandes, de négligence de sa propre maison et d'habitude de vie dans le plaisir égoïste, ou d'attachement aux avantages mondains et à l'argent. Versets 11 à 16. Précepte personnel pour le serviteur du Seigneur. Citation de l'Écriture. Ordonne ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. Sois attentif à toi-même et à l'enseignement. Persévère dans ces choses, car en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Fin de citation. Timothée devait ordonner et enseigner ces choses. Comme jeune homme, il devait spécialement se garder de toute arrogance ou orgueil de jeunesse qui ternirait son témoignage et amènerait à ce qu'on le méprise à cause de sa jeunesse. Pour que ses exhortations et ses instructions à d'autres soient efficaces, il devait, dans sa vie, être un modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Hélas, combien de fois nous ternissons notre témoignage en manquant de présenter ces belles qualités de Christ. Si les vérités que nous enseignons ne touchent pas nos propres vies, comment attendre que notre enseignement touche les autres? Si sa propre vie est pure, le serviteur sera à l'aise pour chercher à aider les autres par la lecture, l'exhortation et l'enseignement. La juxtaposition de la lecture avec l'exhortation semble montrer que la lecture ne fait pas référence à l'étude personnelle, mais plutôt à la lecture publique de la Bible, qui, en ces jours-là, était d'une importance toute particulière. En outre, dans le cas de Timothée, un don pour un ministère lui avait été conféré. Il avait reçu une marque spéciale pour le service par une parole prophétique de la part de Dieu, et le corps des anciens avait exprimé sa communion avec ce service en lui imposant les mains. On avait déjà vu une telle prophétie et une telle imposition des mains dans le cas de Barnabas et de Saul, Actes 13, versets 2 et 3. Aussi juste et belle que soit la vie chrétienne d'un serviteur, elle ne lui permet pas de prendre la place officielle de docteur. Pour cela, un don du Seigneur est nécessaire. Dans le cas de Timothée, il pouvait aller de l'avant dans la confiance que ce don avait été conféré par une parole directe de la part de Dieu, et ce don pouvait être exercé dans la conscience qu'il avait la pleine communion des anciens du peuple du Seigneur. Le don avait été donné par prophétie et par l'imposition des mains de Paul, 2 Timothée 1, verset 6. Il n'a pas été donné par l'imposition des mains des anciens, mais avec cette imposition des mains sur Timothée, comme exprimant leur communion avec lui. Ainsi encouragé, il devait se garder de négliger le don par une quelconque timidité naturelle. Ainsi fortifié et encouragé, Timothée devait se consacrer aux choses du Seigneur, comme dit l'apôtre, « Occupe-toi de ces choses ». Trop souvent, nous nous laissons distraire par d'autres objets que le Seigneur et ses intérêts. Il est bon de prendre à cœur le christianisme et de mettre notre intérêt dans les choses du Seigneur. Sois-y tout entier. Alors, en effet, nos progrès spirituels seront évidents à tous. L'apôtre résume son exhortation à Timothée en disant « Sois attentif à toi-même et à l'enseignement, ou à la doctrine. » Insister sur la doctrine tout en négligeant sa propre marche, ou bien faire grand cas de la piété personnelle tout en affirmant que ce que nous maintenons est de peu d'importance, voilà deux pièges dans lesquels beaucoup sont tombés. Les deux sont pareillement fatales à tout vrai témoignage. Ce n'est que dans la mesure où nous prenons garde à nous-mêmes et à la doctrine que nous nous sauverons nous-mêmes et ceux qui nous écoutent des maux des derniers temps.